Merci d'écouter RFI. Il est 8h à Washington, midi en temps universel et 14h ici à Paris.
RFI midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Annonce surprise de Donald Trump, le président américain assure que des discussions avec l'Iran sur le nucléaire se dérouleront samedi prochain à Oman. Téhéran confirme, il s'agira de discussions directes. Précision à suivre avec Pierre-Olivier. Emmanuel Macron en Égypte, le président français est arrivé ce matin à Al-Arish, avant-poste égyptien du soutien humanitaire à Gaza. Les détails avec Valérie Gasse qui suit Emmanuel Macron dans ce déplacement. Premier volet de la réponse européenne aux droits de douane américains. Les 27 ont établi une liste de produits américains qui seront taxés à hauteur de 25% à leur entrée sur le marché européen. Pierre Benazet reviendra depuis Bruxelles sur la position justement des Européens. Les opérations de recherche ont terminé en Birmanie, 10 jours après le tremblement de terre, plus de 3500 morts. À Mandalay, les habitants n'abandonnent pas et poursuivent leurs opérations de déblaiement pour tenter de dégager des corps sans aucune aide humanitaire, nous dira Esther Lebleu sur place. Enfin, Guillaume Thibault du Cap-Vert nous fera découvrir l'Atlantic Music Expo. Praia va vibrer toute la semaine au son des musiques du monde pour la 11e édition de ce grand marché de la musique.
RFI Midi.
C'est une annonce spectaculaire. Donald Trump assure que des discussions avec l'Iran sur le nucléaire auraient lieu samedi prochain à Oman. Annonce confirmée par Téhéran. Alors Pierre-Olivier, le président américain a également créé la surprise en affirmant que les États-Unis et l'Iran menaient des discussions directes alors que les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis 45 ans jour pour jour.
Oui, et malgré tout, le lien entre Washington et Téhéran n'a jamais été complètement rompu. Depuis 1980, l'ambassade de Suisse dans la capitale iranienne est responsable des intérêts américains dans le pays. Et puis plus récemment, des États comme Oman ou le Qatar ont joué le rôle de médiateurs, notamment après la sortie des États-Unis de Donald Trump 1 de l'accord sur le nucléaire iranien, c'était en 2018. On ignore cependant le rôle que d'autres pays comme l'Irak par exemple pourraient jouer dans ces relations informelles. Mais le nouveau mandat de Donald Trump semble avoir donné une inflexion plus directe à ces échanges. 2 semaines après son élection, son très proche ami Elon Musk a rencontré l'ambassadeur iranien à l'ONU. Début mars, Donald Trump a lui-même écrit directement au guide suprême iranien pour organiser de nouveaux pourparlers sur le nucléaire, menaçant même d'utiliser la force et fait rarissime. Ali Khamenei a répondu. Reste que malgré ces nouvelles relations, l'Iran a toujours posé une limite très claire, accepter de parler du nucléaire, mais jamais de son programme d'armement. Preuve que la plus grande méfiance reste toujours de mise entre ces deux pays.
Pierre-Olivier du service international de RFI.
Et on reparlera de ces annonces de Donald Trump, de ces discussions donc entre les États-Unis et l'Iran avec notre invité dans quelques minutes, Thierry Coville, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.
La suite du déplacement d'Emmanuel Macron en Égypte, le chef de l'État français est arrivé en fin de matinée à El Arish. Il a été accueilli par le président Sisi qui était déjà sur place dès sa descente d'avion. Ils se sont rendus dans un hôpital pour s'entretenir avec des patients palestiniens avant de se rendre au centre logistique du Croissant Rouge égyptien où sont regroupées toutes les ONG qui interviennent à Gaza et qui dressent le bilan dramatique de la situation. Valérie Gasse était sur place.
À El Arish, 1500 camions sont prêts à rentrer dans la bande de Gaza pour distribuer l'aide humanitaire dont la population palestinienne a besoin. Mais depuis un mois, l'accès est bloqué, rien n'entre, rien ne sort, pas même les malades ou les blessés, comme l'explique la directrice régionale du programme alimentaire mondial, la Suisse Corinne Fleischer.
Il y a entre 11 000 et 13 000 de patients qui attendent d'être évacués.
Pourtant, des stocks de denrées et des produits de première nécessité sont prêts.
On a des vivres dans les trois corridors dont on opère, de l'Égypte, qui est le corridor majeur, de Ashdod, du port, et de la Jordanie. Il y a des vivres pour à peu près 2 à 3 mois. Il y a 90 000 tonnes de nourriture. Il y a des milliers de palettes de produits sanitaires et de la médecine.
Alors, entendre Corinne Fleischer, le message à Emmanuel Macron est clair.
On a besoin que le blocage se lève pour qu'on puisse rentrer.
Même si les chances de débloquer la situation sont faibles après cette visite, les travailleurs humanitaires disent vouloir garder l'espoir. Valérie Gasse, El Arish, RFI.
Sur le terrain, 19 personnes tuées ce matin dans des frappes israéliennes. sur le territoire palestinien.
C'est la défense civile de la bande de Gaza qui a fait cette nouvelle annonce. Ce matin, un média proche du djihad islamique a également annoncé ce matin la mort d'un de ses journalistes, Ahmad Mansour, dans une frappe israélienne sur Khan Younes, dans le sud de Gaza, survenue hier. Une frappe israélienne aurait visé une tente utilisée par des journalistes à proximité de l'hôpital Nasser de Khan Younes. Le Croissant Rouge palestinien appelle aussi la communauté internationale à former une commission d'enquête internationale et indépendante sur les circonstances de la mort de 15 secouristes et travailleurs humanitaires. En mars dernier, l'organisation humanitaire accuse l'armée israélienne d'avoir visé sciemment son équipe d'ambulanciers avec l'intention de les tuer. Berlin a également appelé à une enquête sur le sujet.
En Turquie, la tension ne retombe pas entre le pouvoir et l'opposition.
Le président Recep Tayyip Erdogan porte plainte pour insulte contre le chef du principal parti de l'opposition, Özgür Özel. Ce dernier l'a accusé d'être à la tête d'une junte. Özgür Özel dirige le parti républicain du peuple, dont est membre le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, arrêté et emprisonné depuis 3 semaines.
Après un lundi noir, les places européennes se reprennent légèrement, notamment à Paris où le CAC 40 gagne plus de 1% à la mi-journée.
Les principales bourses asiatiques ont compensé une partie de leurs pertes de la veille, à commencer par Tokyo qui a clôturé sur un bond de 6% après un plongeon de près de 8% hier. Sydney et Hong Kong rebondissent nettement aussi, mais Taïwan a de nouveau plongé. Dans ce contexte, le président américain a affirmé qu'il n'envisageait pas de pause dans la mise en place de nouveaux droits de douane qui assomment les partenaires commerciaux des États-Unis et affolent donc les marchés. Donald Trump ajoute que de nombreux pays viennent négocier avec nous des accords qui seront équitables. L'Union européenne va émettre ses premiers droits de douane également en riposte pour faire face à Donald Trump. Le président américain a répété hier soir à la Maison-Blanche que l'Union avait été créée uniquement pour damer le pion à l'économie américaine et aux États-Unis en général. Mais les Européens sont bien décidés à ne pas se laisser impressionner par les propos du président américain et émettront des droits en rétorsion dans l'espoir d'amener les États-Unis à la table des négociations. Pierre Benazet à Bruxelles.
La Commission européenne a envoyé aux 27 capitales ce lundi soir une liste de produits américains qui seront taxés à hauteur de 25% à leur entrée sur le marché européen. Ces droits de douane de rétorsion ne sont qu'un premier volet car il s'agit de la réponse aux droits de 25% sur l'acier et l'aluminium décrétés par Donald Trump. La liste européenne a été concoctée à partir des droits de douane émis par l'UE en 2018 lors de la dernière guerre commerciale avec les États-Unis. Et outre les métaux, elle comprenait par exemple les motos Harley-Davidson ou les jeans Levi's. Le bourbon sera en revanche exclu pour écarter la menace de 200% de droits de douane punitifs sur les vins et spiritueux européens dont menaçait Donald Trump. Les Européens veulent amener les États-Unis à négocier, mais il leur faudra des arguments de poids puisque Donald Trump a déjà qualifié d'insuffisante leur proposition de supprimer tous les droits de douane sur les biens industriels qui traversent l'Atlantique. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Et l'Union européenne pourrait donc présenter sa réponse aux droits de douane de 20% décrété par Donald Trump en début de semaine prochaine. C'est ce qu'a affirmé ce matin un porte-parole de la Commission. Une élection présidentielle anticipée aura lieu le 3 juin en Corée du Sud pour désigner le successeur de Yoon Suk-yeol, destitué le 4 avril après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Un scrutin anticipé dont la campagne débutera officiellement le 12 mai avec déjà un grand favori, le leader de l'opposition. Une correspondance de Celio Fioretti à Séoul.
Un véritable boulevard s'ouvre devant lui. Le progressiste Lee Jae-myung, 61 ans, leader du Parti démocrate, pourrait bien être le futur président sud-coréen. Enfant ouvrier, devenu avocat puis homme politique, il avait échoué d'un cheveu au dernier scrutin présidentiel en 2022 à 250 000 voix près. Mais désormais, les sondages le donnent très largement gagnant face à tous ses potentiels adversaires. Le parti conservateur du président destitué Yoon Suk-yeol ne parvient pas à rassembler après 4 mois de chaos politique. Lee Jae-myung n'a cependant pas encore officialisé sa candidature à la prochaine élection. En Corée du Sud, le président est élu au scrutin universel lors d'un seul tour pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Et exceptionnellement cette année, la passation de pouvoir se fera dès le lendemain du vote, au lieu de l'habituelle période de transition entre les deux chefs d'État. La Corée du Sud souhaite retrouver un peu de stabilité au plus vite. C'est Lio Fioretti, Séoul, RFI.
Et une petite alerte à la frontière coréenne, ultra sécurisée. L'armée sud-coréenne annonce avoir tiré des coups de semonce après une incursion d'une dizaine de soldats nord-coréens qui se sont alors déplacés vers le nord. Un message d'avertissement a également été diffusé.
Plus de 10 jours après le puissant séisme qui a ravagé la Birmanie, il n'y a quasiment plus d'espoir de retrouver des survivants.
Plus de 3500 personnes ont été tuées selon le dernier bilan de la junte. Ce lundi, les autorités ont décidé de mettre fin aux opérations de recherche alors que 10 corps ont été retrouvés dans les décombres d'un immeuble effondré à Mandalay, deuxième ville du pays, là où se trouve Esther Lebleu pour RFI, Mandalay où ceux qui ont perdu des proches ne veulent pourtant pas abandonner.
Au centre-ville de Mandalay, les bonzes du monastère Chaemin s'affairent à la reconstruction d'un dortoir où près d'une centaine d'étudiants en bouddhisme ont été ensevelis. Juste à côté, les ruines du Sky Villa, un immeuble de 12 étages effondré. Faute d'aide internationale, les volontaires birmans déblaient par des températures qui dépassent les 40 degrés. Il s'agit désormais de retrouver le plus de corps possible avant l'arrêt des recherches. Tout autour, les familles, équipées de masques pour affronter l'odeur de cadavres en décomposition, attendent anxieusement une annonce. Un jeune homme vêtu d'un costard noir raconte.
Ma sœur était en train de nager dans la piscine quand le tremblement de terre est arrivé. Il n'y a rien à expliquer, j'ai perdu ma sœur. Aujourd'hui, ils ont sorti 7 corps à chaque fois. On y croit, mais ce n'est jamais elle. On va devoir vivre sans avoir récupéré son corps, avec le doute. C'est dur pour la famille.
Mandalay reste debout malgré les dégâts. Aux portes de la ville, plus de 10 000 sans-abri campent sur le bord de la route. L'aide humanitaire reste quasi inexistante. Dans les zones plus reculées, les populations qui payent le double prix de la guerre civile et du tremblement de terre n'ont toujours reçu aucune aide.
Un reportage d'Esther Lebleu à Mandalay, en Birmanie.
Ce matin en France, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la protection de l'enfance a rendu ses conclusions.
Dans un rapport de 500 pages, les députés pointent les dysfonctionnements majeurs dans l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, chargée d'encadrer les mineurs qui ne sont pas pris en charge ou retirés à leur famille. La rapporteuse Isabelle Santiago dénonce une situation alarmante. Tanita Fallet.
Des bébés qui ne voient pas la lumière du jour faute de personnel ou des jeunes placés dans des hôtels inadaptés. La députée socialiste Isabelle Santiago dresse un triste constat pour les 400 000 enfants de l'ASE.
Moi je dis on n'est plus à bout de souffle, on est dans le gouffre. Et là actuellement il faut vraiment... Un plan d'urgence, c'est ce que je propose.
Après plus d'un an d'enquête, elle demande en priorité plus de personnel, plus de structures pour mieux prendre en charge les enfants. Et pour ça, il faut des moyens sur le long terme, insiste la députée.
On a à regarder non pas à la prochaine élection juste le nez devant, mais pour une génération, il faut tout changer sur la protection de l'enfance. Et c'est l'ensemble des solidarités. C'est pour ça que je parle d'une loi de programmation enfance sur quelque chose qui serait de l'ordre quinquennal.
Car ces jeunes sont souvent traumatisés et l'État doit les considérer comme victimes, selon Isabelle Santiago.
C'est très important pour eux d'être reconnus comme victimes et que l'État puisse s'excuser.
Et demande que les 92 recommandations du rapport soient examinées dès aujourd'hui par le gouvernement.
Direction le Cap-Vert où l'Atlantic Music Expo vient de s'ouvrir. À Praia, la capitale va donc vibrer toute la semaine au son des musiques du monde. C'est la 11e édition de ce grand marché de la musique où se mêlent les artistes et les producteurs du monde entier avec l'ambition de monter des partenariats. Un événement désormais essentiel pour faire rayonner l'archipel capverdien et c'est une tradition qui s'ouvre lors d'une cérémonie officielle à l'Auditorium National. Reportage Guillaume Thibault.
Insuffler la joie et la douceur, faire entendre et connaître les nouvelles voix du pays et d'ailleurs, comme ici le jeune Joshua Martins, l'ADN de l'Atlantic Music Expo, une vision soutenue par le Premier ministre Ulys Correa e Silva.
La musique c'est résilient, le message de paix. La crise, la récession économique touche tout le monde. Il faut vivre, toucher la conscience des gens et des politiciens.
Avec un budget de 160 000 euros, l'Atlantic Music Expo réussit à réunir des artistes locaux, mais aussi du Sénégal, du Maroc ou encore du Brésil. Un partenariat public-privé essentiel, explique le directeur Benito Dalus Lopez.
Si, c'est très difficile pour tout le monde, mais au Cap-Vert, c'est toutes les entreprises, le gouvernement qui donnait une bonne part de budget.
Dans un monde en tension, à l'économie fortement perturbée, l'Atlantique Music Expo met donc en avant l'or du Cap-Vert, sa musique, explique Jorge Lima, membre du mythique groupe Oshtubaroish et ancien conseiller à la présidence de la République.
La musique et le tourisme que le Cap-Vert vit, c'est sa fortune. On n'a rien d'autre, rien. C'est ça qu'on a. Et la démocratie, c'est ça.
Guillaume Thibault Praia, RFI.
Obrigado. Voilà, c'était l'Atlantique Music Expo à Praia. Tout de suite, la suite des RFI Midi avec vous, Anne Kantner.
Merci Olivier Charman. Il est 14h15 ici à Paris. La suite, c'est l'actualité sportive. Avec vous, Olivier Pron, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et au programme, bien sûr, du foot, la Ligue des Champions. C'est le début des quarts de finale ce soir avec deux très belles affiches et le tenant du titre à Londres.
Ouais, c'est la Champions qui redémarre avec de sacrés quarts. Bien écrite, hein, celle-là.
Ah ouais.
Real Madrid, donc, vous l'avez dit, est à Londres pour y affronter Arsenal. Merengue face à Gunners, invaincu à domicile depuis 2 ans dans la compétition. Les poulains de Carlo Ancelotti arrivent en Angleterre après une défaite surprise. Ce week-end en Liga face à Valence, ils connaissent des hauts, mais quelques bas inquiétants également cette saison. Mais ils savent aussi tourner la page pour se concentrer sur la compétition où ils sont les plus titrés. Préservé samedi, le gardien belge Thibaut Courtois reprendra ce soir sa place et il se méfie comme il se doit des hommes de Mikel Arteta.
Nous avons beaucoup de respect pour Arsenal. Ils jouent bien, c'est une équipe équilibrée entre les jeunes et les joueurs plus expérimentés. Ils défendent bien, ils pressent haut, ils savent jouer en bloc bas pour ensuite se projeter vers l'avant. Et ils ont des joueurs adroits devant le but, notamment sur coups de pieds arrêtés. Ils sont durs à bouger. J'imagine que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne remportent un nouveau trophée, mais j'espère que nous les éliminerons en Ligue des Champions.
Arsenal, Real Madrid, coup d'envoi à 19h, temps universel, comme l'autre quart de finale aller du jour.
Ouais, tout aussi ouvert que le premier cité à Bayern, Inter, le leader de la Bundesliga accueille celui du Calcio, malgré une infirmerie bien remplie. Vincent Kompany, le coach munichois, a de quoi faire, hein, pour faire face. Il pourra compter sur Thomas Müller, le joueur le plus capé de l'histoire du club, a annoncé samedi qu'il quitterait le Bayern à la fin de la saison, mais il espère bien disputer la finale de la compétition à domicile en mai et viser un troisième titre avant de quitter la Bavière après 25 ans de service. Bref, il a encore beaucoup à apporter au club, selon son coéquipier Konrad Leimer.
Thomas Müller peut certainement toujours créer de la magie pendant le match. C'est vraiment amusant d'être son coéquipier dans le vestiaire et sur le terrain. Pendant 2 ans, j'ai eu la chance d'être son voisin de vestiaire. Il est tout le temps 100% authentique dans ce qu'il fait. Et je pense que c'est ce qui le rend si gentil. Ça le rend spécial en tant que personne, peu importe où il est. Il apporte tellement d'énergie, tellement de joie, tellement de plaisir. Il peut rendre tout le monde meilleur autour de lui. Il cherche toujours à s'améliorer.
Oui, ben bien sûr. Bayern-Inter, 19h, temps universel, comme les deux derniers quarts de cette Ligue des Champions programmée demain mercredi. Barcelone-Dortmund, et puis ce petit match là au Parc des Princes. PSG-Aston Villa, en direct et en intégralité sur RFI.
Et en présence d'Olivier Charman qui vient de nous annoncer ça.
Dans les tribunes.
Oui, pas sur le terrain quand même. Du tennis pour finir, avec la suite du Masters 1000 de Monte Carlo.
Et l'entrée en liste du tenant du titre tout à l'heure, Stefanos Tsitsipas, le grec, vainqueur de 3 des 4 dernières éditions, se réjouit évidemment d'entamer la saison sur terre battue. Lui qui avait aussi atteint la finale de Roland-Garros il y a 4 ans. Sur cette surface, il se sent en pleine confiance, même s'il entame cette nouvelle édition avec humilité et des résultats en berne ces derniers mois. Stefanos Tsitsipas.
J'ai l'impression d'être plutôt rapide sur terre battue. J'ai toujours ressenti ça, surtout ces dernières années. Ça me donne confiance et cela m'offre des opportunités. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres joueurs ici qui peuvent vraiment très bien jouer sur terre et qui ont l'expérience de cette surface. Moi, je suis prêt pour de grosses batailles. Peu importe que j'ai déjà gagné 1 ou 3 fois ici, j'ai toujours l'impression que chaque année apporte quelque chose de nouveau. Il y a de nouveaux tirages, de nouveaux joueurs à affronter, que ce soit dès les premiers tours ou plus tard dans le tournoi. Donc il y a toujours beaucoup de choses à apprendre de ces périodes de circuit qui reviennent chaque année.
Premier adversaire pour Tsitsipas, l'Australien Jordan Thompson, le 35e mondial, un tombeur du français Giovanni Pecci. Péricard au premier tour, globalement, ce tournoi ne réussit pas beaucoup aux Français depuis qu'il a débuté dimanche.
Merci Olivier Pron. L'actualité sportive est aussi sur internet, rfi.fr.
RFI Midi, Anne Cantner.
Nous en parlions tout à l'heure dans le journal. Donald Trump a encore une fois surpris hier en annonçant des négociations directes avec l'Iran. Bonjour Thierry Coville.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur du livre « L'Iran, une puissance en mouvement » qui est paru aux éditions Erol. Donald Trump a parlé d'une rencontre quasiment au plus haut niveau samedi prochain, lui qui avait retiré les États-Unis de l'accord de 2015 pendant son premier mandat. Là, il annonce des discussions donc sans médiateur. Qu'est-ce qu'il cherche ?
Ben, cette réunion n'est pas non plus une surprise parce que Donald Trump a écrit il y a quelques semaines une lettre au guide iranien Ali Khamenei proposant des négociations sur le nucléaire. Et on sait qu'Ali Khamenei lui a répondu en disant qu'il était d'accord pour des négociations entre guillemets indirectes. Et là, on apprend d'après la presse iranienne, là je regardais, il va y avoir une rencontre entre Steve Witkoff, hein, l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient, et le ministre des Affaires étrangères Abbas Al-Archi, qui va avoir lieu à Oman. Donc manifestement, c'est la suite logique de cet échange de lettres. Hein. C'est des rencontres avec un intermédiaire qui est le sultanat d'Oman, mais en fait, les Iraniens jouent un peu sur les mots. On va dire ça ressemble à une rencontre directe entre l'Iran et les États-Unis.
Pourquoi c'est important pour l'Iran de s'attacher à ce que les négociations soient indirectes, même dans la forme ?
Écoutez, ce qu'on entend dire du côté iranien, c'est qu'il y a, et on peut les comprendre, il y a une méfiance énorme vis-à-vis des États-Unis. Alors, évidemment, il y a un contexte historique, mais surtout suite à la sortie unilatérale de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire de 2015 en mai 2018. Donc, le pouvoir iranien avec Ali Khamenei était déjà assez anti-américain. Alors, suite à cet événement, il y a une méfiance absolue par rapport aux États-Unis. Donc, ce qu'ils disent comme explication, c'est que compte tenu de cette méfiance, on préfère des négociations indirectes. Mais
Thierry Coville, est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous ? Non. On discute avec vous de ces négociations qui devraient se tenir donc samedi à Oman. Discussion directe, comme l'a annoncé Donald Trump hier lors de la visite à Washington de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Téhéran s'attache à préciser qu'il s'agit de discussions indirectes pour l'instant. On a entendu aussi un responsable iranien dire qu'il s'agissait autant d'une opportunité que d'un test pour les États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Thierry Coville ? Je crois que vous êtes de nouveau en ligne avec nous.
Oui. Je pense que c'est véritablement un moment décisif, hein, parce que les Iraniens, je vous l'ai dit, on vient de le dire, sont très très méfiants, notamment le pouvoir iranien, qui sont quand même au pouvoir, qui sont les plus radicaux. Mais ils se rendent bien compte quelque part que ils n'ont pas vraiment le choix, parce qu'il y a quand même des menaces d'attaque hein, militaire par Israël, par les États-Unis, si les négociations n'aboutissent pas. Je pense que c'est un moment important qui arrive, hein, donc c'est des discussions directes. Bon, alors, on n'en est qu'au début, on sait très bien qu'il y a encore beaucoup de problèmes à régler, et ce qui reste à voir, c'est le sujet des négociations. Du côté iranien, c'est clair, ils veulent parler que du problème nucléaire iranien. Du côté américain, c'est moins clair. Est-ce qu'ils vont essayer d'évoquer aussi le programme balistique iranien, la politique régionale de l'Iran ? Ça, on va voir. Mais s'ils veulent avoir une chance d'aboutir du côté américain, il faut vraiment que ces négociations, à mon avis, se concentrent sur le programme nucléaire iranien.
Vous nous l'avez dit, il y a cette épée de Damoclès, la menace d'attaque. Le président américain, comme souvent, a menacé d'ailleurs de nouveau hier, parlant de solutions alternatives qu'il dit ne pas souhaiter. Ce serait quoi cette solution alternative ? Est-ce que les États-Unis pourraient appuyer Israël si le pays attaquait directement les installations nucléaires en Iran ?
Alors, comme toujours, il faut faire attention avec Donald Trump. Vous avez raison, là, manifestement. D'ailleurs, je crois que dans la lettre qu'il a adressée à Ali Khamenei, c'était évoqué. Donald Trump dit « négocier avec moi, sinon il y aura une attaque militaire sans doute ». Alors, est-ce que ce sera, on sait qu'Israël peut pas attaquer tout seul, donc Israël sans doute avec les États-Unis. Donc ça, c'est même dit explicitement. D'ailleurs, c'est quand même, on peut s'étonner, par exemple, que les pays européens ne réagissent pas parce que c'est complètement contraire au droit international. On n'a pas le droit de menacer un pays de l'attaquer. Mais bon, bref. D'un autre côté, je pense que Donald Trump, comme d'habitude, on le voit, sa stratégie de négociation, c'est de bousculer la table, de faire peur, de déstabiliser l'adversaire. Donc, je pense qu'il utilise ça comme levier de négociation avec les Iraniens. Il y a un autre élément important, c'est que c'est pas hasard s'il a évoqué ce risque d'action militaire en recevant Netanyahou. Il y a des membres de son administration, de son gouvernement, qui sont très anti-Iran, qui seraient favorables à ce type d'action. Donc, il essaye un peu de calmer tout le monde. Donc, je pense que c'est pour l'instant un levier de négociation. Les Iraniens disent qu'ils n'ont pas peur d'une guerre, qu'ils veulent pas négocier sous la contrainte. Mais bon, pour l'instant, je crois qu'il faut rester prudent. Je pense que c'est très très important, compte tenu du degré de méfiance entre les deux pays, qu'ils arrivent déjà à discuter entre eux.
Vous nous l'avez dit, le périmètre des discussions est encore un peu flou pour l'instant. En tout cas, ce qui est mis en avant aujourd'hui, c'est le programme nucléaire iranien. On l'a évoqué tout à l'heure avant d'être interrompu, il y avait un accord international salué par de nombreux pays, balayé par Donald Trump, donc qui était sorti de l'accord de 2015. Quel serait aujourd'hui un bon accord? Qu'est-ce qu'on pourrait négocier de mieux?
Mais ça, c'est une bonne question. À mon avis, cet accord de 2015 a été déjà tellement compliqué à mettre en place, qui était assez simple. L'Iran donnait des garanties que son programme nucléaire resterait civil en échange d'une levée des sanctions. Et cet accord, je crois que c'était plus de 200 pages, ça a été quand même validé par une résolution des Nations Unies. Tout le monde disait que c'était... Bon, il y a toujours des imperfections à ce type d'accord, mais disons que compte tenu du contexte et de l'animosité entre l'Iran et les États-Unis, c'était un bon accord. Donald Trump en est sorti. Une des questions qu'on peut se poser, c'est que s'il renégocie quelque chose, ça va être un peu gênant pour lui s'il renégocie un accord sur le nucléaire iranien qui ressemble à l'accord de 2015. Donc, un des éléments de ces négociations, c'est qu'est-ce qu'il va arriver à obtenir de plus dans ces négociations. Mais c'est une question que tous les spécialistes qui suivent ce dossier se posent.
Merci Thierry Coville, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Erol, L'Iran, une puissance en mouvement. Merci beaucoup.
RFI à Dakar, 92 FM.
Il est midi et 26 minutes dans la capitale sénégalaise qui s'éloigne de plus en plus de l'image de carte postale, plage, surfeur et vue sur le bleu de l'océan. Aujourd'hui, la baie de Han, par exemple, qui abrite les quartiers de pêcheurs et une vaste zone industrielle, est envahie par les déchets dont les deux tiers proviennent d'usines locales. Le projet de dépollution lancé il y a 7 ans n'a toujours pas avancé. L'espoir désormais, c'est la grande station d'épuration censée entrer en fonction l'année prochaine. Et c'est le sujet de notre grand reportage ce mardi, dont voici un extrait.
Inlassablement, Bac et Sec arpente la plage de Han. Cette baie est devenue le combat d'une vie pour ce militant environnementaliste. Ce jour-là, la plage est presque vide. Une légère brise rafraîchit l'air, mais ne parvient pas à masquer les odeurs nauséabondes qui parviennent de la mer.
Là, l'odeur, c'est les canalisations des toilettes des gens, en fait.
C'est les canalisations des eaux usées domestiques de toute la partie nord de la ville qui finissent dans la baie de Han. Parce que naturellement, c'est le bassin versant de Dakar.
Les eaux de la mer sont foncées et sur la plage, on voit des piles de déchets plastiques et ménagers entre lesquels il faut slalomer. Des bouteilles, des couches sales, des sachets...
Et c'est plastique aussi, ça, c'est les déchets des Dakarois.
Oui, c'est les déchets qui nous viennent de Barni, de Rufusque, de Tcharoï. Parce qu'avec la forme de la baie, tout ce que vous êtes dedans est poussé par le courant marin dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vers Han.
La baie est devenue le dépotoir de la capitale sénégalaise et de sa grande banlieue, où vivent 4 millions de personnes sur un littoral d'une quinzaine de kilomètres de côte, avec Han pour destination finale. Pourtant, le décor était digne d'une carte postale il y a 40 ans. Mbaké a assisté à sa transformation.
Donc vous avez grandi à Han, cette plage, vous la connaissez depuis toujours. Elle ressemblait à quoi?
C'était du sable fin blanc, avec des cocotiers et des eaux très poissonneuses, calmes et claires. On nous dit que le gouverneur de l'Afrique occidentale française, tous les week-ends, venait ici. Et tous les week-ends, c'était des courses, des régates, avec des bateaux voiliers colorés. Et nous, ça nous amusait beaucoup. Mon père me disait que personne ne voulait aller travailler dans les industries. Cela était obligé de taper au tam-tam pour dire qui veut venir travailler dans les industries, tellement que la pêche nourrissait son homme. Mais aujourd'hui, le jeune de Han ne peut plus se baigner ici, ne peut plus pêcher ici, et nous tombons facilement malades à cause de cette pollution.
Bonjour. Reportage de Juliette Dubois. La version longue de ce grand reportage est à retrouver ce soir sur notre antenne et quand vous le voulez sur l'appli RFI Pure Radio. Restez avec nous. Afrique Midi, dans une minute maintenant.
Bom dia, ici c'est Gabriela Lima, artiste brésilienne, et j'ai le bonheur de vous annoncer que mon nouvel album, Sabor Solaire, que l'on pourrait traduire par Saveur Solaire, est disponible sur toutes les plateformes. Il sort sous mon label Biela en partenariat avec RFI Talent.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Des théâtres, des musées, des bibliothèques. En 3 ans de guerre en Ukraine, près de 500 sites culturels ont été détruits ou pillés. Comment restaurer ce patrimoine? Nous en parlerons avec la journaliste Irina Slavinska et avec Thomas Raguet qui signe le documentaire « Ukraine, la culture en guerre ».
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.